Interview.
2 jours.
Interview toujours aux rencontres de l'écologie 2026. Face à moi, je suis en compagnie de monsieur Pierre Leroy. Bonjour.
Pays Bonjour.
Du pays Grand Briançonnais. Et vous êtes ici pour une intervention titrée « Pour une démocratie vivante ». Vous êtes en compagnie d'Alban Rousseau et de Madame Marie Pochon, députée de la Drôme. Alors, la question que je me pose pour une démocratie vivante, pourquoi ce titre? Est-ce qu'il est en pressant sa mortalité, peut-être?
Alors... On peut s'interroger dans cette période de crise. Alors, on parle beaucoup de la crise climatique, de la crise de biodiversité, mais c'est aussi la crise sociale, c'est la crise démocratique, c'est la crise financière. Et la crise démocratique, c'est quand même un problème fondamental aujourd'hui, autant au niveau international que national, que local. Et on l'a vu ces 50 dernières années. En fait, le citoyen, finalement, a abandonné en quelque sorte la démocratie. Et on a toujours considéré que la démocratie, c'était un fait immuable. Ben non, la démocratie, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, et il faut en prendre soin, il faut la soigner pour pouvoir la faire évoluer favorablement. Et c'est un petit peu la question qu'on se pose. Il se trouve que moi, j'ai été militant pendant une vingtaine d'années, et j'ai fait beaucoup contre les collectivités locales, sur des projets qui me semblaient délétères. Et ensuite, ben, j'ai fait pour, en tant qu'élu, pendant une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, ce n'était pas non plus la solution de faire pour. Peut-être la solution, c'était faire avec. Et donc, reconstruire cette citoyenneté, redonner l'envie aux citoyens de faire du politique, de se réintéresser à la vie de la cité. Alors, c'est un grand chantier, c'est complexe. On est bien conscient qu'on travaille sur du temps long. Il est question d'apprivoisement, en quelque sorte, hein, de faire que, tout à coup, la confiance, au fil du temps, se forge et qu'on puisse rapprocher les citoyens des élus pour co-construire les politiques publiques. Donc ça, c'est le vrai chantier qui, aujourd'hui, est là devant nous. Moi, je reste persuadé aujourd'hui qu'on ne pourra pas faire autrement que de faire ensemble et de co-construire ces politiques publiques. C'est véritablement la solution qui est là, à notre portée, qui, encore une fois, est complexe. D'un côté, les élus ont peur des citoyens. De l'autre côté, les citoyens sont en colère contre les élites. Et il va falloir qu'ensemble, on se rapproche. Voilà.
Justement, la question aussi est où commence la démocratie? Vous êtes plutôt dans le milieu du Briançonnais. Il y a ce monde rural. Est-ce que c'est aussi au sein d'un village que s'opère la démocratie?
La démocratie, c'est partout. C'est à la maison.
C'est dans le foyer. C'est déjà être plus proche de soi.
C'est clair.
Aussi.
C'est essayer de comprendre, de sentir, de se rapprocher de notre alter, c'est-à-dire être au contact des autres, sachant qu'on est tous différents. Là, il se trouve que moi, je suis président du pays Grand Briançonnais. Je travaille avec 36 maires. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes visions du monde. Donc, soit on choisit le clivage, et c'est le territoire et ses habitants qui en subissent les conséquences, soit, au-delà de nos différences, on arrive à construire un projet ensemble. Donc c'est le cas avec mes collègues élus, mais c'est le cas aussi avec les citoyens. Il va falloir que chacun d'entre nous tente de prendre soin du territoire et des concitoyens. Donc c'est, pour moi, je suis aujourd'hui persuadé que le rôle, la fonction de l'élu doit être chamboulée, transformée, et que les élus vont devenir des animateurs et des soignants de territoire.
Oui, c'est le fait d'être un élu municipal, c'est une délégation de la population envers une personne, mais avoir la mairie clé en main et d'opérer...
Ce n'est pas un blanc-seing. C'est-à-dire que quand on est élu, ben encore une fois, c'est pas parce qu'on est élu qu'on a tout pouvoir. Et c'est bien justement l'intérêt de notre intervention tout à l'heure, c'est de montrer que ben l'élu aujourd'hui doit petit à petit réinterroger sa fonction et que ce n'est pas dans la verticalité qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans le, au contraire dans ce travail d'animation territoriale en ayant en ligne de mire ce rôle de soignant et de redonner le pouvoir aux citoyens. Finalement, l'élu a le pouvoir de redonner le pouvoir. Alors c'est complexe, encore une fois, ça nécessite un peu de compétence, ça nécessite une expertise, des fois de se faire accompagner pour pouvoir avancer progressivement, parce qu'il va falloir se réapprivoiser, créer un climat de confiance pour travailler ensemble. Donc c'est vraiment une nouvelle fonction de l'élu. Donc souvent, on parle du statut de l'élu. Moi, j'interroge la fonction de l'élu. Pourquoi on est là ? Et je pense qu'on est là pour faire ensemble, pour se coordonner, pour coopérer, pour arriver à se comprendre, pour aller vers un avenir désirable pour le territoire et les gens qui l'occupent.
C'est souvent peut-être aussi ce sentiment d'être plus écouté dans pas mal de municipalités, et d'où cette vindicte ou cette violence qui peut émaner de personnes, notamment celles qui sont dans l'opposition peut-être.
On le voit bien ces dernières années, les citoyens ne se sentent pas respectés, au plus haut niveau de l'État d'ailleurs. Et que ce soit à l'international, au national et localement. Donc là, il y a une colère qui monte, évidemment. Parce que les gens, on a l'impression qu'ils ont beau dire, redire, on ne les entend pas. Donc la solution à tout ça, c'est de remettre les gens autour de la table, de recréer du lien social, de profiter de tous les événements locaux, d'aider les associations. Tous les moyens sont bons pour faire ensemble et reconstruire du commun. Et ça, je pense que si véritablement on est en capacité de faire ça, eh bien finalement la colère se fond et progressivement les gens ont envie de s'investir et d'agir, parce que finalement en agissant c'est un bon moyen de gérer la colère. Et le pouvoir d'agir du citoyen, c'est sur cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc à la fois il y a un double mouvement, à la fois les élus doivent ouvrir la porte de la mairie, aller au-delà de leur peur pour justement s'ouvrir aux autres. Puis il va falloir que les citoyens fassent un petit effort quand même de ne pas être dans la critique permanente, de ne pas considérer que les élus sont responsables de tout, d'accepter de mettre de la confiance dans cette relation et petit à petit, progressivement, sur du long terme, on va réussir à construire ensemble. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître... Mais je pense qu'aujourd'hui, finalement, on n'a plus le choix.
Il y avait une série d'émissions sur France Culture, hein, actuellement, sur qu'est-ce qu'être maire. Et donc, on peut entendre aussi les témoignages. Hein. Mais justement, cette fonction du maire s'est beaucoup étiolée hein, au fur et à mesure des années, dans ses capacités d'agir également.
Ça, c'est ce qui se dit.
C'est ce qui se dit, mais tout à l'heure, vous parliez dans cette conférence, dans la salle du conseil municipal, vous parlez aussi de ce qui se passe à travers le monde, puisque le village fait partie du monde. Mmh. Donc il y a cette mainmise sur les mentalités, peut-être, et de trouver le dialogue aussi pour pouvoir éclaircir un peu.
Alors il y a plusieurs aspects. À la fois, on parle beaucoup de la commune. Mais tout à l'heure, on l'a évoqué, il y a aussi l'intercommunalité. Et là, les élus ont un représentant au sein de l'intercommunalité. Donc là, il y a quand même de gros enjeux, parce que derrière, c'est tout un tas de compétences de gestion du quotidien qui d'ailleurs répond aux besoins primaires des populations. Donc là, il y a un vrai rôle à jouer. Ça, c'est un des autres aspects. Mais sinon, en effet, on est des villages du monde. Les problématiques globales, eh bien, c'est à la fois agir local, penser global, mais c'est aussi penser local, agir global. On est vraiment tous concernés par tout ce qui se passe dans le monde entier. Et tout ça, ça nécessite du débat. des discussions, des rapprochements, un effort de compréhension de l'autre.
Il y a donc ce dialogue à opérer. Voilà, la question qui me vient maintenant, c'est est-ce que la démocratie est une croyance qui tend à disparaître ?
Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. La démocratie n'est pas un fait établi. C'est une construction. Et c'est toujours en construction. En effet, la démocratie peut mourir. Pour qu'elle puisse vivre, eh bien, il faut la faire vivre. C'est-à-dire qu'il faut la travailler. C'est-à-dire qu'il faut la mettre en situation de vivre. Ça veut dire, encore une fois, de privilégier tous ces moments, comme aujourd'hui, hein, où là, on échange. On n'est pas nécessairement d'accord. Mais on a du débat. On confronte des idées. C'est ça, la démocratie. Et c'est un très bel objet. Mais encore faut-il en prendre soin. Et je pense que de redonner sa place aux citoyens et de faire comprendre aux citoyens qu'en effet, il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Le devoir de s'informer, le devoir de participer, le devoir d'être présent auprès de son environnement, des gens qui l'entourent, des événements locaux. Oui, ça fait partie. On est citoyen. Et la vie de la cité, c'est ça. On doit faire partie de cette société. Et c'est en effet, quelque part, un devoir. Mais je trouve que c'est une belle chose.
Le public tend à être submergé par les médias, avec ses influences plus ou moins nocives. Est-ce qu'il y a peut-être à regretter que cette part de démocratie ne puisse pas avoir aussi la parole dans ces médias ou dans l'univers médiatique en général? Est-ce qu'on aurait pu opérer aussi une certaine instruction civique qui se maintienne au-delà du collège? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ou...
J'en parlais tout à l'heure aussi, l'éducation populaire, elle a disparu comme peau de chagrin. Et finalement, on se rend compte, moi j'étais pas mal au contact avec des étudiants entre 20 et 35 ans, que finalement on a quelque part perdu l'esprit critique. J'ai trouvé des étudiants peu informés sur tous les éléments de la société et avec très très peu d'esprit critique. Donc en plus, dans une période où vous êtes journaliste, donc là on le voit, la saturation du monde médiatique avec la post-vérité, avec tous les débats qu'il y a sur l'intelligence artificielle, etc., etc. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, et pour les jeunes peut-être encore plus maintenant. Donc en effet, réinterroger l'éducation populaire, démultiplier les lieux de débat, de discussion, ça me semble absolument nécessaire.
Il y a aussi le réchauffement climatique qui prend de plus en plus part au quotidien, même dans les municipalités de petite taille. On peut le constater à Die avec cette réduction de circulation routière. Ça a levé un grand nombre de boucliers, donc une certaine vindicte contre la municipalité. Et ça peut s'observer partout, même du côté du Briançonnais.
Ça peut s'observer partout dans le sens où... Il y a plein de débats de société. Comment on les aborde, ces débats de société? Je pense que là, ça nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être une information, une formation préalable pour aborder les sujets avec un niveau d'information qui soit satisfaisant, où là, tous autour de la table, eh bien, on a un constat, on comprend les enjeux, parce que là, finalement, c'est de la vindicte. Mais derrière, quelle est la compréhension des enjeux? Alors parfois, il faut s'entourer de scientifiques. Nous, on le fait volontiers dans le Briançonnais. Là, on a travaillé sur la politique énergétique du territoire, mais ça a été un travail à la fois sur du long terme, avec un accompagnement scientifique, à la fois sur les sciences humaines et sciences sociales, pour comprendre comment on fait de la concertation, et à la fois sur les sciences dures, pour avoir des éléments fiables de compréhension des enjeux.
Alors, vous-même, vous avez contact avec les citoyens. Qu'est-ce que vous proposez, justement, pour maintenir ce lien avec les administrés? Est-ce qu'il y a des rencontres organisées régulièrement et de manière à ce qu'il y ait ce sentiment aussi de prendre part à l'action municipale la part de...
Il y a des moments stratégiques au cours d'un mandat où, en effet, il y a... Il y a des événements, je pense, tout à l'heure je parlais du plan local d'urbanisme. Là, dans une commune, c'est pas rien. Nous, on a considéré que le plan local d'urbanisme, pour nous, c'était un projet de territoire. Et sur un projet de territoire, évidemment que ça se co-construit. C'est pas possible que ce soit les élus qui décident du projet de territoire. Donc ça nécessite en effet une démarche où on accompagne les citoyens pour qu'ils débattent ensemble des grands enjeux de leur commune et pour qu'ils imaginent un avenir désirable en concertation avec une forme de consensus sur l'avenir. Donc ça, c'est ces moments-là qu'il faut privilégier. On ne peut pas solliciter la population en permanence, mais il y a des moments stratégiques où ça doit, pour moi, être fait.
Je reviens un peu sur ce discours. D'ailleurs, les questions que vous aviez à répondre, auxquelles vous aviez à répondre, certaines vous ont étonné ou vous ont interrogé, vraiment ?
Déjà, il y a eu beaucoup de questions. Donc c'est bien, parce que là, pour le coup, on est dans le débat. Les gens avaient envie de partager des points de vue. Il y avait aussi des témoignages d'anciens élus. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était très riche. Il n'y a pas vraiment de questions qui m'ont surpris. J'ai trouvé que le panel des questions était très varié et finalement prenait en compte un peu tous les enjeux. Donc c'était plutôt très satisfaisant. Parce que là, on avait la vision de l'élu, mais aussi la vision du citoyen. On a même parlé des employés municipaux, on a parlé des intercommunalités, on a parlé du rapport avec l'État, comme on était trois à la tribune. J'ai trouvé que c'était très riche, ouais. Mais finalement, encore une fois, j'ai pas eu tellement de surprises, mais on voit quand même qu'il y a un vrai intérêt, il y a des vrais questionnements, c'est riche. Moi, j'ai trouvé, ça m'a rendu optimiste.
Est-ce que selon vous, les fonctions d'élus correspondent aux attentes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a peut-être une évolution à trouver aussi dans la manière de gérer, d'administrer une municipalité, ou même au-delà, hein ?
Mais je pense qu'on est à un moment de bascule. Je pense qu'en effet, la démocratie, évidemment, ne fonctionne pas bien. Que ce soit au niveau international, national et local. Et donc, quelque part, on voit à la fois des élus qui sont démunis, avec 2500 démissions de maire, plus de 30 000 démissions de conseillers municipaux, donc c'est quand même pas rien, hein. Et puis à la fois, une insatisfaction, là, patente, de la part des concitoyens. Donc, d'un côté, on peut se dire, oh là là, c'est grave. Moi, je considère que c'est une vraie opportunité. Parce qu'enfin, les choses vont pouvoir bouger. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un double mouvement, à la fois des élus et à la fois des citoyens. Ça ne se fera pas l'un sans l'autre. C'est vraiment un rapprochement des citoyens et des élus.
Alors, pour cela, il n'y a rien de mieux qu'un projet collectif. Ça peut se vérifier. On pourrait peut-être donner comme exemple ce qui s'était passé à Saillant, avec justement cet empêchement d'implantation d'un supermarché et pour lequel s'est constituée une liste citoyenne. Est-ce que ça aussi a permis d'amener une nouveauté, justement? D'ailleurs, ça s'est assez vite détérioré parce que ça demande beaucoup d'implication personnelle. Et je crois qu'il y a eu, au fil des ans, ça s'est peut-être un peu étiolé, fatigué. L'équipe s'est retrouvée assez fatiguée. Donc, c'est aussi un combat de chaque jour, dans une continuité tout le temps.
À la fois, comme vous l'avez dit, parfois c'est l'opposition qui motive. Donc là, en l'occurrence, il y avait un projet et ça a généré de l'opposition. Et là, tout à coup, ça a enclenché une dynamique. Parfois, c'est ça. Parfois, ça peut être, par contre, pour un projet positif. Après, l'expérience de Saillant, c'est une expérience avec ses atouts, ses faiblesses. C'était une expérimentation qui a eu une renommée nationale, d'ailleurs. Y a eu, en effet, j'ai cru comprendre, un épuisement. Parce que peut-être ils sont allés trop loin. Donc c'est là où il faut trouver la juste mesure. Là récemment, j'étais à côté de Nancy, dans une commune proche de Nancy, où depuis 6 ans, c'est l'Assemblée citoyenne qui décide des projets de la commune. c'est tous les deux mois. La quasi-totalité de la commune est présente et les gens s'organisent. C'est l'Assemblée citoyenne qui décide de l'ordre du jour. Parfois, l'Assemblée citoyenne dit « Non, mais ce sujet n'est pas assez important, on le laisse au conseil municipal. » Nous, on s'occupe des choses importantes de la commune. Donc, ils délèguent au conseil municipal, en quelque sorte. Et là, bah, depuis 6 ans, ça fonctionne. En l'occurrence, les élus sont des animateurs. Chaque Assemblée citoyenne nomme 3 personnes pour garantir la qualité des débats. Et là, ben, les habitants, encore une fois, choisissent l'avenir communal. Donc c'est une expérience qui est assez proche de celle de Saillant, peut-être moins complexe avec une autogestion où, encore une fois, l'Assemblée citoyenne, c'est elle qui prend la mesure de ce qu'elle a envie de mettre en œuvre. Et faut continuer à chercher quelle est la meilleure solution. Il y a plein de questions qui se posent aussi sur la dimension, la taille de la commune. Est-ce que ce qu'on peut faire dans un village de 150 habitants, on peut le faire dans une commune de 5000 ou de 100 000 habitants? Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut tous qu'on travaille. Encore une fois, c'est la démocratie en mouvement.
Les réductions budgétaires aussi impactent beaucoup hein, les municipalités et autres structures. Et pour cela, ça nécessiterait peut-être une réflexion de la part de tous pour essayer de trouver des combines de manière à pallier ce manque de moyens financiers. Et c'est là aussi où le dialogue peut opérer.
Là, on en a parlé aussi tout à l'heure. 35 500 communes. Franchement, on est le seul pays au monde dans cette situation-là. Nos voisins ont fait des choix parfois peut-être radicaux, mais en tout cas, là c'est une vraie énigme quand même. Hein. Donc il y a peut-être aussi, j'en discutais tout à l'heure avec des citoyens, il y a une vallée avec 5 communes où il y a 50 habitants par commune. Mais ils sont juste côte à côte et je trouve que c'est quand même un vrai problème. C'est la même sociologie, c'est la même économie. Les gens se connaissent depuis des générations. On n'est pas capable de faire ensemble. Donc là, il y a des économies d'échelle vraisemblablement à faire. Mais au-delà de ça, je pense que des fois, bah, quand c'est en situation financière contrainte, bah, c'est des moments aussi privilégiés où on s'interroge. Nous, on a baissé énormément les frais de fonctionnement. Vous éteignez l'éclairage public entre minuit et 5 heures, c'est 30% d'économies financières. Sans parler de l'impact environnemental, de l'impact énergétique. Il y a des solutions à trouver. Hein, pour nous, sur ma commune, on n'est pas en difficulté financière. Donc je pense qu'il y a des travaux à mener. En effet, hein, il y a des contraintes. Bah, il faut réfléchir ensemble. Ça peut faire l'objet d'un travail de co-construction avec les citoyens. Quelles sont les économies qu'il nous faut faire? À quoi on touche, à quoi on ne touche pas? Qu'est-ce qu'on peut avoir de nouvelles recettes aussi? Et ça, c'est pareil, c'est un vrai travail qui peut se faire avec les citoyens.
Alban Rousseau nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alban, vous étiez aussi pour cette conférence pour une démocratie vivante en compagnie de Pierre Leroy. Et donc, vous-même êtes facilitatrice de coopération fertile. Que peut-on déduire de cette présentation?
Oui, je vais expliquer un petit peu. C'est pas évident. On utilise des mots nouveaux en plus, mais moi je trouve que ça fait partie de nouveaux imaginaires à mettre en place, en fait, aussi d'utiliser des mots nouveaux. Bon, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut les expliquer. Donc, qu'est-ce que j'entends par facilitatrice de coopération fertile? En fait, on a un vrai besoin aujourd'hui de dialogue. Et de faire dialoguer différents acteurs. Je pense que Pierre en a largement parlé. Sur un territoire, on parle à la fois des citoyens et des élus. Le fossé, aujourd'hui, la défiance qui existe entre ces différents types de populations s'agrandit, en tout cas depuis plusieurs années. Et on arrive à une espèce de méfiance généralisée et d'être un petit peu en lutte ou en contre les uns les autres. Or, être gouverné, c'est-à-dire être citoyen, être habitant d'un territoire, c'est aussi une compétence. C'est pas uniquement être passif, recevoir des ordres ou obéir à des législations ou être en lutte, au contraire, par rapport à ces ordres, ces législations, etc. C'est aussi faire valoir son point de vue, échanger avec d'autres, avec ses voisins. Avec, quand je dis ses voisins, c'est large. Hein, c'est au niveau d'un quartier, d'un territoire, d'un village, peu importe. Mais en tout cas, on a cette responsabilité, chacun, chacune, de porter, d'être souverain et de porter un avis. Et puis surtout, de se laisser la possibilité de changer ses avis au fil de discussions et d'échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble. Et donc, facilitatrice de coopération fertile, c'est, comme son nom l'indique, faciliter ça. Ben, c'est pas rien.
Il faut peut-être éviter les certitudes, donc.
Ouais, bah ça, je pense que effectivement, on a l'impression de devoir avoir un avis, d'être. On a l'impression que la confiance en nous-mêmes, va venir de certitudes. Pour moi, c'est l'inverse. Effectivement, pour le coup, l'habitude du doute, de douter, et puis surtout d'écouter l'autre. Réussir à écouter l'autre d'une manière qui est... réussir à écouter l'autre d'un côté, mais réussir aussi à parler, non pas pour convaincre, mais pour être clair et entendable et compréhensible. Et en fait, ça se fait des deux côtés. Hein. C'est pas uniquement une écoute qui doit changer d'un côté, et puis, mais il y a aussi la parole, notre parole, la parole qu'on porte, elle doit pouvoir être là pour être apportée ou alimenter un débat, une discussion, etc. Et ça, c'est hyper important, et c'est un changement de posture, et c'est presque un changement culturel en réalité, de se dire qu'on n'est pas plus fort quand on a des certitudes. Mais au contraire, on est bien plus fort, et bien plus fort collectivement, quand on peut se laisser influencer par l'autre, et c'est ça la vraie rencontre de l'autre.
Il y a aussi ce terme entreprise régénérative. Répond à quelle inquiétude ou quelle latence ?
Oui, en fait, c'est pareil. Ça nécessite une explicitation. Donc, merci pour cette question. La régénération, la définition que je lui donne en tout cas, et qui est partagée par un certain nombre d'acteurs qui se réfèrent de la régénération, c'est de redonner au vivant son plein potentiel. Et quand on a dit ça, déjà, on considère le vivant. Le vivant, c'est... Alors, je ne vais pas me lancer dans une définition du vivant parce qu'il y en a beaucoup et puis que, justement, c'est des choses qui peuvent être aussi discutables. N'empêche que le vivant, c'est de considérer l'homme comme faisant partie du vivant, donc d'un règne beaucoup plus vaste et qui partage en fait ces conditions d'habitation, d'habitabilité, donc cette planète qui nous héberge et qui nous donne nos conditions de vie avec plein d'autres vivants. Et tout l'enjeu, c'est de trouver comment est-ce qu'on habite ensemble cette planète et pas en... Ça vient, donc la régénération, ça vient vraiment retravailler notre position par rapport au monde. Donc on parle d'anthropocentrisme, encore pour des gros mots, mais pour dire qu'on est vraiment centré sur l'humain, nous humains, on a vraiment centré toutes nos actions, nos activités sur nos besoins, et en plus des besoins qui sont réellement questionnables, parce qu'aujourd'hui, avec les incitations à la consommation et autres, en fait, on a déplacé nos besoins vers quelque chose de vers du superflu et des besoins de confort qui sont aussi à questionner. Donc, nos rapports au monde, est-ce qu'on peut les déplacer d'un anthropocentrisme vers un biocentrisme, tourné vers le vivant en général, vers un écocentrisme, tourné vers les cycles, les grands cycles, etc. Et le multicentrisme, qui serait du coup de considérer l'ensemble des relations et des interconnexions de l'homme en tant qu'individu, mais aussi qu'en tant que société et organisation, avec le reste des cycles du vivant et de cette planète qui nous héberge.
Alors, il y a aussi l'intermédiation territoriale. Ma question, c'est de savoir ce que vous proposez en tant que facilitatrice. Est-ce que vous avez pu l'appliquer dans la réalité et est-ce que vous en avez retiré un enseignement ?
Oui, pas assez, à mon goût. Mais oui, bien sûr, à plusieurs échelles. Et dans plusieurs cercles, on va dire. Par exemple, on a une actualité un peu chaude là en ce moment qui n'aura échappé à personne, qui sont les municipales, mars 2026. Ces municipales, elles concernent des entités qu'on appelle les communes. Et cet échelon de la commune, il est important à plus d'un titre. D'abord parce que, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est que c'est l'échelle du pouvoir d'agir. Donc on sait tous ce que c'est que notre commune. Alors quand on est en grande ville, notre quartier, mais notre commune aussi, c'est quelque chose qui est réel. On voit bien en fait à l'échelle de la commune toutes les actions qui sont menées, les écoles, les services publics, etc. Ce qu'on n'a pas, etc. Donc cet échelon de la commune, il est essentiel. Et donc moi, dans mon travail là de facilitation, Après le livre qu'on a co-écrit avec Pierre Leroy et Karine Bandorier sur le petit manuel de démocratie vivante qui essaie justement de donner quelques clés sur comment est-ce qu'on peut redonner du souffle et de la vie à notre démocratie, eh bien, au niveau de la commune, on peut travailler des instances citoyennes et un dialogue citoyen pour alimenter à la fois se vivre ensemble, mais aussi le travail des élus qui sont des citoyens en responsabilité. Donc aujourd'hui, moi, je mets en place des assemblées citoyennes communales dans différentes communes, villages là, des Hautes-Alpes, mais pas uniquement, qui rejoint un mouvement national qui s'appelle les États généraux communaux, qui réveille la démocratie pour refonder la République. Ça, c'est leur slogan. Donc ça se manifeste là par l'organisation d'espaces de dialogue où les citoyens, les habitants, les habitantes peuvent discuter entre eux de l'avenir de leur village, par exemple. Et dans les entreprises, eh bien, il y a quelques entreprises un peu pionnières qui ont une conscience élargie de leur position en tant qu'entreprise dans leur environnement, dans leur écosystème, qui s'attellent justement à cette question de comment est-ce que je peux travailler pour être à visée régénérative. Et on travaille là sur la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service. On décortique cette chaîne de valeur, donc c'est très concret. Hein. On parle d'une box dans le numérique, on parle d'une gaufre dans l'agroalimentaire, d'une filière ortie, etc. On décortique cette chaîne de valeur et on travaille à une valeur régénérative de ce produit ou service à 10 ans, parce qu'il va pouvoir se projeter vraiment de manière assez loin dans le futur pour aller vers cette idée de redonner au vivant son plein potentiel et de dire que l'entreprise est un acteur qui peut être bénéfique à son écosystème, pas uniquement dans l'extraction de ressources, etc. Et ça passe par travailler des services écosystémiques de l'entreprise dans son environnement et redonner et retravailler du coup la proposition de valeur du produit, par exemple.
Il y a, en cherchant un peu sur vous, il y a ce site biotopique. C'est donc une proposition, vous pourriez nous en dire quelques mots, mais avant tout, cette proposition émane aussi de votre expérience professionnelle dans des secteurs très variés et qui vous a permis aussi d'établir un point de vue, un constat global et de mieux discerner aussi ce qui relie ou ce qui diverge.
Oui, c'est vrai. En fait... la plongée dans l'accompagnement des transitions écologiques et démocratiques est arrivée pour moi, enfin je m'y suis vraiment dédiée il y a 5-6 ans en fait, en créant Biotopique, qui est le nom de la petite entreprise qui est la mienne et avec laquelle je tisse des liens avec plein d'autres acteurs. Avant ça, j'ai travaillé une vingtaine d'années en entreprise dans différents secteurs d'activité. Moi, je suis ingénieure agronome de formation. Je pense que ça m'a nourri de travailler ce qu'était le vivant et que moi j'arrive par ce prisme du vivant. Qu'est-ce que c'est que la vie? Comment est-ce qu'on en fait partie et comment est-ce qu'on nourrit tout ce potentiel? Et à partir de là, effectivement, mon expérience en entreprise m'a permis de travailler sur la stratégie, l'innovation, de comprendre un petit peu quels étaient les positionnements d'une entreprise dans à la fois un écosystème local, un territoire, mais aussi au niveau presque des marchés mondiaux, hein, puisqu'on est vraiment dans une mondialisation, et de voir un petit peu comment cette stratégie qu'on travaille au niveau d'une entreprise, qui est le cap qu'on donne à une entreprise, eh bien, on peut l'organiser et la traiter différemment. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans les gouvernances partagées, en ayant la très forte conviction l'organisation, comment est-ce qu'on s'organise pour réaliser une mission, une raison d'être, pour donner du sens à nos vies et nos missions, eh bien cette organisation, elle est fondamentale dans la manière dont fonctionnent les sociétés, les entreprises, les collectifs. Et du coup, de travailler à cette horizontalisation, on va dire, du pouvoir, mais du coup de distribuer le pouvoir et la responsabilité aux individus.
Lors de cette conférence débat, est-ce que vous avez ressenti la teneur ou le sens des questions qui vous étaient posées par le public ?
Bah, j'ai trouvé ça génial parce que avec un thème comme celui de la démocratie, on se voyait mal faire une conférence descendante. Moi, je commence souvent mes interventions en disant que ma parole n'a pas valeur de vérité. Et je le crois sincèrement, mais en fait surtout accorder la forme au fond. Et donc c'était de donner la parole d'abord à la salle et puis ensuite nous de parler à partir des éléments qu'on a eu comme retour et puis de donner une large part aux questions. Donc oui, je pense qu'on est dans un endroit où effectivement qui n'est pas complètement représentatif de la totalité de la France, et on le sent par l'engagement qui se dégage en fait des personnes qui étaient dans le public à nous écouter d'une part de manière très attentive, à prendre ça comme un écho pour leurs propres activités et à partager aussi leurs expériences. Et moi je m'enrichis mais énormément à ce type de dialogue, même si il y a des formes encore plus participatives, hein. Mais les questions, c'était à la fois des questions et des partages d'expériences, et c'est ça la richesse d'une intelligence collective, de réussir à rebondir et de prendre pour soi, de collecter en fait dans ce qu'on entend des choses qui vont venir nourrir ses propres actions. Et moi j'en retire exactement la même chose. Donc oui, une énergie, une vraie énergie d'engagement et d'envie de travailler pour la collectivité, le collectif. Et puis il y avait plus d'une dizaine de personnes qui étaient engagées sur des listes, donc c'était intéressant d'avoir ce public là aussi.
On pourrait en parler encore longtemps, oui. Mais le temps est imparti et puis il y a la cérémonie d'inauguration des rencontres. Et bien Alban Rousseau, je vous remercie beaucoup de votre patience.
Merci.
Et de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler, donc pour une démocratie vivante. Je vous souhaite une bonne soirée.
Un grand merci, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you. artistes et les voyants se contentent d'être objectifs. Rien qu'objectifs. Ils savent que le désir étreint la vie avec une puissance productrice et la reproduit d'une façon d'autant plus intense qu'il a peu de besoin. Et tant pis pour ceux qui croient que c'est facile à dire, que c'est une idée dans les livres. Machine paranoïaque, miraculeuse, c'est l'imaginaire. l'œuvre de la Vuquiso Analyse, qui relance le mouvement, renoue avec la tendance.